Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une exposition, Empreinte Carbone, l'expo, qui se tient au Musée des Arts et Métiers à Paris. On va explorer ça à partir du dossier de présentation.
Oui, et le lieu, le Musée des Arts et Métiers, c'est pas anodin. Hein. C'est quand même le temple de la technique, avec les machines à vapeur, les débuts de l'industrie.
Donc, le berceau de ce qui a fait grimper notre empreinte carbone, finalement.
Exactement. Et l'expo, elle veut justement déconstruire un peu les idées toutes faites sur le climat et puis nous faire réfléchir aux solutions, de manière assez accessible pour les familles aussi.
D'accord. Et comment ils ont structuré ça ? Le dossier parle de trois parties, c'est ça ?
Oui, voilà. La première, c'est la machine carbone. Là, on décortique le cycle de vie d'un objet technique.
C'est-à-dire ?
De la fabrication.
À la fin de vie, en passant par le transport, l'utilisation. Ils prennent des exemples concrets.
Un frigo, une vieille locomotive diesel, la BB 6740.
Ah oui, des objets assez parlants. Et des choses plus anciennes aussi.
Oui, il y a des modèles réduits de hauts fourneaux, de machines à l'opper. Ça permet de voir l'évolution. Mais il y a aussi, et c'est intéressant, un vieil ordinateur. Un Macintosh 512K.
Un Mac ? Pourquoi ?
Bah pour parler de l'obsolescence, tu vois. Le fait qu'on remplace nos appareils si vite, ça pèse lourd dans l'empreinte carbone du numérique, par exemple. Ça fait le lien entre hier et aujourd'hui.
Je vois. Après cette machine carbone, la deuxième partie s'appelle l'engrenage des usages. Ça parle de nos habitudes ?
C'est ça. Comment on utilise les choses au quotidien. Ils prennent l'exemple de l'alimentation, qui parle à tout le monde. Et ils mettent en avant la cocotte minute.
La cocotte minute, c'est pas tout neuf comme invention, ça.
Ah non, ça date de Denis Papin, 17e siècle. Hein. Mais justement, c'est un bon exemple de technologie simple, efficace, qui permet de cuire plus vite, donc d'économiser de l'énergie.
Une sorte de low-tech avant l'heure, en quelque sorte.
On peut dire ça, oui. Ça montre bien que l'innovation, c'est pas forcément le truc le plus compliqué ou le plus récent. Parfois, on redécouvre des choses simples et pertinentes.
D'accord, donc les objets, les usages, et logiquement, la troisième partie, la fabrique des solutions.
Voilà, là, on explore ce qu'on peut faire. Des solutions qui existent déjà, d'autres qui sont en développement, et même des pistes un peu plus hypothétiques. L'idée, c'est de développer un regard critique.
Il y a des exemples précis. Le dossier mentionne une quadruplette. C'est quoi ce truc ?
Ah oui, la quadruplette. C'est un petit véhicule hybride conçu juste après la guerre, quand il y avait pénurie de tout.
Hybride, déjà à l'époque ?
Oui, ça fonctionnait avec un petit moteur thermique et aussi des pédales si besoin. Ça montre bien que l'adaptation aux contraintes de ressources, c'est pas une idée neuve. La question, c'est est-ce qu'on va s'adapter par choix ou par obligation ?
Intéressant. Et l'expo elle-même, sa forme, sa conception, elle a quelque chose de particulier aussi.
Oui, apparemment, la scénographie est assez vivante, colorée, ludique, avec une grande structure d'échafaudage visible au centre. Un peu comme un mécano géant, quoi.
Un échafaudage, c'est original.
Oui, et surtout, il est loué. Ça fait partie de leur démarche d'éco-conception. C'est un point important. Ils ont essayé de penser l'expo pour qu'elle ait le moins d'impact possible.
Ah d'accord, ils ont choisi les matériaux, les procédés ?
Exactement. Et ils ont même fait faire un bilan carbone de l'exposition elle-même. C'est assez cohérent comme démarche, non ?
Une mise en abîme, en quelque sorte.
Oui, c'est logique.
Et pour que les visiteurs s'impliquent, il y a des choses interactives ?
Oui, deux dispositifs principaux. La caisse carbone, où on pourrait genre scanner des objets du quotidien, ou même des pratiques, pour voir leur empreinte.
Voir concrètement ce que ça représente.
Et voilà. Et puis Futur en construction, qui est décrit comme un serious game, un jeu sérieux collectif, sans doute pour explorer différents scénarios d'avenir.
Rendre les choses plus concrètes, plus palpables.
C'est ça. Sortir de l'abstrait, permettre de se projeter un peu.
Et il n'y a pas que l'expo elle-même, hein, si j'ai bien compris. Il y a aussi des animations autour,
oui.
Des week-ends décarbonés.
Oui, c'est ça. Ils organisent des week-ends thématiques. Le premier était sur la réparation. Repair café, atelier pour réparer son vélo, ses vêtements.
Donner des outils concrets pour agir.
Tout à fait. Les suivants porteront sur le numérique durable. Et puis sur les fameuses low-tech dont on parlait. Mettre en avant des alternatives pratiques.
Et il y a aussi une œuvre d'art sur le parvis, la bouée.
Ah oui, une sculpture de l'artiste Damia. Elle est faite en partie avec du plastique recyclé. Et surtout, elle est recouverte d'une peinture spéciale qui absorbe le CO2 de l'air.
Une peinture qui absorbe le CO2 ? Comment ça marche ?
Bah, c'est une technologie qui utilise des composants minéraux, je crois, qui réagissent avec le CO2 ambiant et le fixe. Un peu comme une photosynthèse artificielle, si on veut simplifier. L'objectif, c'est que l'œuvre elle-même ait un bilan carbone négatif.
Carrément. Et le symbole de la bouée, c'est fort aussi.
Oui, la bouée, ça signale un danger. Mais c'est aussi un repère, une aide pour trouver son chemin. C'est assez bien trouvé.
Donc, si on résume, cette expo, elle essaye vraiment de tisser des liens entre l'histoire technique du musée, les objets d'aujourd'hui, nos habitudes.
Et les pistes pour demain, oui. En partant de l'empreinte carbone comme fil rouge, mais pour aller plus loin que la simple mesure, interroger nos usages, les solutions possibles.
Et tout ça en essayant d'être elle-même exemplaire dans sa conception.
C'est l'idée. Une approche historique, technique, mais aussi sociétale, est conçue de manière responsable. C'est assez complet.
Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. L'expo met en lumière comment la technologie, depuis les premières machines jusqu'à nos ordinateurs, a façonné notre impact. Mais face à l'urgence climatique, est-ce que les solutions purement technologiques suffiront ? Quelle place on laisse à la sobriété, à la question de nos besoins réels, finalement, pour construire un futur, disons, désirable ?
C'est une excellente question pour conclure, effectivement. La place du changement technique face au changement plus profond de nos modes de vie, c'est sans doute là que se joue une partie de l'avenir.